Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez, débrief de la tech, c'est reparti avec Bruno Guglielmini de Minitic. Laurent, merci encore d'être avec nous, journaliste et animateur de mon carnet de l'actualité numérique et qui est loin de chez nous, mais très proche dans ce débrief, puisqu'il est au Canada. Lucas Perraudin, fondateur de AI Partners, et Philippe Devost, fondateur de Phileos, qui accompagne donc les entreprises, justement, qui les conseillent, sur l'IA et sur tous ces projets. On va reparler du boîtier IPTV, parce que Philippe a une surprise pour vous en exclusivité. Voilà, je vends un petit peu ce sujet-là, mais vous allez voir, c'est passionnant. Juste un mot, je voulais qu'on le traite dans la première demi-heure, on n'a pas eu le temps, c'est les Émirats qui deviennent le nouveau terrain de jeu de la tech US. Bon, c'était le nouveau terrain de jeu pour l'armée, pour tout ce qui était la défense, hein, une grande époque. Là, on vient de voir que Microsoft vient d'investir 15 milliards de dollars sur 4 ans aux Émirats pour l'importation de l'hébergement de modèles d'IA, l'importation de GPU, la création de data center. On se dit, c'est pas si mal joué parce que c'est un beau hub régional sur le Moyen-Orient. Là, on n'est pas loin de l'Inde, on n'est pas loin de l'Asie. On déporte sur l'aile droite l'Europe. Il y a l'Afrique aussi avec certaines nations en devenir.
Il faut lire ça. Il y a toujours une deuxième lecture.
Et puis il y a la diplomatie.
Ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, aller chercher l'argent des Émirats pour les entreprises de tech, ça n'était pas possible à cause des restrictions d'export. Nvidia, par exemple, il se trouve que le président américain étant maintenant beaucoup plus pro-UAE, pour des raisons, par exemple, ils ont fait un Boeing il n'y a pas longtemps, donc ça lui a plu. Ils ont moins de restrictions. Et c'est le vice-président de Microsoft qui a dit ça. Ouais. Ce qui était difficile avant, c'était de vendre. Bon, maintenant qu'on nous a ouvert la porte...
Il y a plus de flexibilité, on va dire.
Ouais, on va mettre 15 milliards sur 4 ans par rapport à toutes les sommes dont on vient de parler. C'est pas non plus énorme. Et donc, eux, ils peuvent aller chercher de l'argent du Moyen-Orient en posant des data centers avec des niveaux de computing qu'ils ne pouvaient pas faire avant parce qu'il y avait des restrictions, c'était interdit de vendre. Par contre, par exemple, ils travaillent avec G42, qui est un fonds émirati, qui a un bout avec les Américains, un bout avec les Chinois. Enfin, là, on a ouvert c'est une petite fissure, mais il y a une petite fissure qui s'est ouverte dans le Tupperware de la tech américaine, qui est quand même intéressante à regarder. Il y a une zone grise un peu intéressante. Mais bon. La motivation, c'est que maintenant, ils peuvent exporter, donc ils peuvent investir.
Ils parlent aussi d'un million de résidents qu'ils vont former. Enfin, voilà, il y a tous les à côté après derrière.
Oui, mais il n'y a pas tant de... Enfin, aux Émirats, il n'y a pas tant de gens que ça. Il y a beaucoup de gens en Saoudi.
C'est pour ça qu'ils disent un million de résidents.
Saoudi, il y a 70 millions de personnes. Là, il y a quelques millions. Donc
c'est vrai que ça devient un beau hub régional. Et puis voilà, c'est assez... Enfin, quand tu regardes une map monde, c'est assez central, le Moyen-Orient, entre...
Tu citais les chiffres de la population. On est assez comparable avec la Suisse. C'est la Suisse de l'IA. C'est la Suisse de l'IA. Et c'est un mouvement géopolitique extrêmement intéressant parce que ça permet à Washington de garder le contrôle de ce qui se passe, tout en déployant une politique pro-business chère au président, dont on découvrira peut-être un jour qu'il a des intérêts ou des investissements personnels dans ces sociétés, mais ça ne nous regarde pas. Tu as tout à fait raison, Lucas, c'est un mouvement, c'est de la géopolitique pure, sous-tendue par le commerce, mais dans le cas particulier des États-Unis, la géopolitique et le commerce font très 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 bon ménage.
Moi j'appelle ça un laboratoire diplomatique.
Absolument, ça permet d'organiser un petit peu la concurrence avec l'Arabie Saoudite qui s'enlise un peu dans ses projets NEOM, etc. Ça permet de favoriser la guerre des talents, mais c'est, en tout cas c'est là que ça se, là que ça
se passe. On n'est pas loin de l'Inde, on n'est pas loin absolument de la Chine, on garde un œil sur toute cette Asie du Sud-Est.
Et à la fin, qui gagne ? Nvidia.
Ouais.
Puisque ça permet à plus de GPU. On parle quand même d'équivalent de quantité absolument ahurissant.
Servir l'Inde depuis les UAE en computing, ça n'a pas beaucoup de sens.
Non, mais de garder un œil, tu vois, d'avoir un pied pas trop loin, tu vois, une tête de pont qui
certes,
est pas...
À ce moment-là, tu as l'Arabie Saoudite qui est un pays, encore une fois, 70 millions d'habitants, avec potentiellement plus de talent. Enfin, moi, j'étais en Saoudi avec une délégation du gouvernement anglais il n'y a pas si longtemps. J'ai visité leur station F avec le ministère de la Recherche, invité par le ministre, etc. Bon, il se passe des choses, mais Enfin, on fait comment est-ce qu'on appelle ça, de rétro-engineering, quoi. Mm-hmm. On est en train de se dire, ils vont là, alors on essaie de trouver des bonnes raisons. Bon, il y a des raisons géopolitiques, un peu financières. Mm-hmm. Surtout si on met du computing, on peut facturer des milliards au Middle East maintenant, parce qu'on a le bon niveau de service là-bas.
Et puis il y a peut-être aussi des raisons symboliques. Hein. On a longtemps dit que la data, c'était le pétrole du 21e siècle. On a longtemps dit que la capacité à la traiter, à la raffiner, c'était clé. L'IA est un des leviers, à la fois dans le raffinage, dans l'exploitation et dans l'extraction de valeur. Et on sait que l'ensemble de la région se prépare très activement à l'après. Donc, pour moi, on est dans ce mode-là, mais avec cette dimension géopolitique et ce bras de Washington qui est suspendu au-dessus du deal.
Bruno, ton regard de outre-Atlantique sur ces Émirats, justement.
Ben, c'est clair que autant l'Arabie Saoudite que les Émirats Arabes Unis, ils sont dans la diversification. Et c'est pas ce qu'on a vu passer comme nouvelle, c'est dans la suite des choses. Ils sont tous en train de regarder où ils peuvent investir, mais de l'autre côté, où on peut amener des investissements. Et moi, j'avoue que c'est cet angle-là que je trouve intéressant parce que jusque maintenant, dans le passé, c'était les capitaux émirats qui sortaient, mais là, on voit les Américains descendre chez eux et installer des choses. Alors, il y a des partenariats qui sont intéressants. Autre chose, d'ailleurs, c'est peut-être pour faire un lien avec ce dont on parlait tout à l'heure, il y a Sam Altman qui a fait, il y a un an et demi environ, qui a fait énormément de voyages de ce côté-là pour aller chercher du financement pour être capable de monter son processeur. Sa carte qui allait faire compétition à Nvidia, ça n'a pas avancé. Et j'avoue que le prochain joueur dont on aura probablement des nouvelles de ce côté-là, ça va être OpenAI qui va probablement nous annoncer quelque chose. Parce que ça, c'est un dossier qui n'est pas encore fermé, ça.
Mais d'ailleurs, je pense que ta remarque est juste. Et si on prend un peu de recul par rapport à ça, on n'est pas certain. Ce n'est pas parce qu'on met de l'argent, tout ça, que ça marche. Hein, l'exécution opérationnelle, la clé, elle sera là aussi, hein, dans l'exécution opérationnelle. Est-ce qu'on aura les...
Faire tourner des data centers en Saoudi ou aux Émirats, ça n'a pas beaucoup de sens écologique, énergétique. Enfin, un data center, c'est compliqué à faire tourner. On sait que quand j'étais en Saoudi, avec les gens justement de la station F de Riyad, l'équivalent, leur incubateur, ils nous parlaient de ça en disant qu'ils avaient des projets de construction qui prenaient un retard monstrueux parce que il y a des contraintes. Il fait 50 degrés.
Il y a du sable. Il y a quelques sujets de refroidissement, ça on peut le comprendre.
Oui. Non, mais il y a du sable. Enfin, c'est très compliqué. C'est très compliqué.
Oui, ne serait-ce que pour avoir ce. Tu parles du sable, les vents et tout ça, ça porte des poussières. On sait que ces data centers sont très sujet à ce genre de choses, que le sable, ça s'infiltre.
Si on était un peu chafouin, on pourrait dire que montrer de l'investissement, ça permet de servir le narratif des gouvernements locaux qui montrent de l'innovation et qui envoient des signaux positifs à la population, ce qui est très bien. Oui. Et ça permettra aussi de justifier un certain nombre de capitaux dans de fonds souverains dans d'autres sociétés américaines plus tard.
Et puis même dans les jeux...
L'échange de bons procédés, c'est du business.
Electronic Arts a reçu, un fonds saoudien qui a repris, enfin, ou Emirati qui a repris tout ça. Autre sujet, Philippe, c'est toi qui as la parole, tu vas nous sortir un petit boîtier parce qu'on va parler du fléau du piratage TV, justement avec ces boîtiers IPTV. Alors raconte-nous, rappelle-nous ce qu'est un boîtier IPTV, peut-être que, j'imagine Tech & Co, si vous nous suivez, vous savez de quoi on parle, mais quand même, rappelle-nous. Alors, et puis tu vas nous expliquer un peu...
L'IPTV, c'est juste une manière tout à fait standard, c'est un ensemble de standards qui permet de délivrer des flux audiovisuels en temps réel sur Internet. Là, il n'y a rien de nouveau. Et comme toutes les technologies qui permettent de faire des choses, elles permettent de faire des choses de manière totalement légale ou elles permettent de faire des choses de manière un peu plus grise. Le piratage, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis que le contenu existe. Tout va bien. Il faut juste se souvenir que c'était Bruce Nair qui disait ça, le CTO de British Telecom, qui disait « la sécurité, c'est une taxe sur les honnêtes gens ». Et au fond, au bout du compte, la seule question, c'est quel est le taux de tricheurs qu'accepte la société. Moi, j'avais été frappé par une brève, je crois que c'était sur Radio France l'été dernier, qui indiquait qu'il y avait 18% d'utilisateurs de services IPTV illégaux en France. Donc, j'ai creusé un peu. Il se trouve que j'ai travaillé sur la partie cyber avec quelques personnes sur le sujet. Et en fait, il y a plusieurs manières de faire. Il y a la manière amateur, c'est on va sur Telegram, dans des groupes plus ou moins confidentiels, on va récupérer un lien juste avant un match qu'on veut regarder, mm-hmm. et on regarde où il y a un truc qui marche plus ou moins bien.
Ah oui, avec des coupures, machin, enfin pour ceux qui ont testé.
Il y a la deuxième option qui est, on a déjà un petit Fire Stick ou un petit Chrome ou un petit Xiaomi Stick chez soi, et on trouve une application qui marche plus ou moins bien. Il y a une troisième approche qui consiste à se procurer par des canaux un peu détournés en utilisant des réseaux de distribution qui sont assez proches des réseaux qui distribuent d'autres produits illégaux. Mm-hmm.
Donc là, ça peut être des boutiques physiques. Hein,
oui, ce sont des boutiques. Alors, des boutiques parisiens, dans lesquelles notamment. On trouve des téléphones, des accessoires, des cartes prépayées, etc. Mais ce n'est pas dans les boutiques qu'on, mm-hmm. qu'on les trouve. C'est plus précisément dans l'arrière-boutique. Et on n'y va pas soi-même. On passe par quelqu'un à qui on remet du cash et qui va vous rapporter un truc comme ça, qui est préconfiguré.
Donc, un petit boîtier. Hein, voilà,
celui-là, c'est un Sagatronix, mais il y a plein d'autres. Tout ça, c'est fabriqué en Chine. Mm-hmm. Mais ce qu'on vous livre, il a déjà été paramétré. La seule chose que vous avez donnée.
Un disque dur, voilà. Une boîtier
la seule chose que vous avez donnée, c'est votre numéro de téléphone mobile, et d'ailleurs, c'est une erreur, et du cash. Votre numéro de téléphone mobile, c'est une erreur parce que 11 mois après l'acquisition du boîtier, vous allez recevoir un SMS vous demandant si vous voulez vous réabonner, entre guillemets. Le problème, c'est qu'entre-temps, votre numéro de téléphone mobile, il est parti sur le dark web et le nombre d'appels et de démarches téléphoniques que vous avez reçus, voilà, votre numéro est en libre service mm-hmm. pour tous ceux qui veulent faire des appels. Donc ça se connecte à votre télé, vous l'installez. Dessus, il y a une appli qui est déjà installée. Alors sur celui-là, je crois que c'est Pro Max. Et vous lancez l'application et vous avez un guide des programmes dans lequel vous retrouvez tout. C'est-à-dire que vous retrouvez tout le sport... Que ce soit Canal, Bein, La Ligue, ben vous avez tout. Mm-hmm. Tous les sports d'ailleurs. Ça, c'est pour le contenu de flux et pour le contenu de stock. Vous retrouvez à peu près les dernières séries proposées par Amazon, par Netflix, Disney+, Apple TV, etc. Et évidemment, les films de Canal. Donc, vous trouvez tout ça pour l'équivalent d'à peu près 70 euros par an. Plus évidemment, l'achat du boîtier la première fois qui coûte une petite centaine d'euros. Là où ça devient quand même dérangeant, en tout cas pour moi, c'est qu'il y a, selon mes estimations, 8 millions de boîtiers comme ça en circulation et en utilisation en France. 1,5 personnes par foyer. On est donc dans un taux de défection.
Oui. On n'est plus dans la petite...
qui colle avec les 18%.
Oui, 8 millions. Ça veut dire que le politique qui mettra fin à cette pratique perdra les élections. Si tu as 8 millions de foyers...
Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle régulièrement
quel est le moyen de combattre simplement.
Il y a plusieurs.
Parce qu'il est compliqué d'aller sonner à chaque porte.
Tout dépend qui on combat et comment on le combat. D'accord. Pour l'instant, les combats consistant à bloquer les DNS, quitte à faire tomber des services adjacents, comme c'est arrivé en Italie avec les services de Google qui sont tombés pendant quelques heures la veille d'un match de je ne sais plus quel grand club italien, ça c'est un peu limite. Il y a le fait d'arriver à repérer sur les canaux Telegram les flux et d'arriver à demander aux opérateurs de les couper, ce qui mobilise énormément de monde.
Ouais.
Il y a le fait d'essayer de pister les clients, mais ça suppose quand même à ce moment-là d'obtenir leur adresse IP, ça suppose quand même des démarches judiciaires, parce qu'il faut quand même bien protéger la vie privée. Mmh. On ne peut rien faire dans le judiciaire.
On peut aussi aller dans ces réseaux de distribution, mais là aussi on est dans le domaine du dark web, c'est compliqué, on coupe une tête,
oui, sauf que là c'est des réseaux de distribution physique, donc ça suppose d'entrer dans des endroits où peu de gens vont. Mmh. Ça c'est aussi possible. Et puis, quand on a regardé la partie infrastructure, parce que ça, ces boîtiers-là, c'est intéressant de savoir à qui ils parlent et comment ils parlent. Et là, on s'aperçoit qu'on est face à des infrastructures qui sont très sophistiquées. Moi, je les ai testés les soirs de match, ils ne bougent pas. C'est-à-dire qu'il y a d'autres... toutes les opérations qui sont conduites touchent des utilisateurs, mais pas ça. De la même manière, ces trucs-là fonctionnent sans VPN. C'est-à-dire que pour les utiliser, vous ne devez pas avoir de VPN. Mmh. Donc, ce qui veut dire que toute tentative de légiférer sur le sujet, sur interdire les VPN, c'est emmerder tout le monde. En tout cas, ça ne va pas régler ça.
Donc, le seul moyen, c'est... Alors, en Angleterre, ils ont mis les moyens parce que, justement, il y a la Ligue...
En Angleterre, ils mettent les moyens. En Italie, en Espagne, il y a des opérations de grande ampleur qui ont été conduites et qui mobilisent à la fois des effectifs de police régaliens, mais aussi des personnes qui travaillent pour le compte, soit des ayants droit qui sont lésés, soit des États et qui travaillent sur des sujets de cyber, donc dans le bruit du silence, et qui trouvent les vulnérabilités mm-hmm. et qui sont capables de perturber. Et ça, c'est tout un. Bon, le chat et la souris, ça existe encore une fois. Le piratage, il existe depuis le début.
Mais c'est l'ampleur qui devient. C'est ça. Parce que à la limite, ce jeu du chat et la souris, tu le dis, hein, le piratage, ça a toujours existé. Là, quand on est à 1,5 boîtiers par foyer.
Oui, 1,5 personnes par foyer. Il y a 8 millions, je pense qu'il y en aura 9 à la fin de l'année, parce que selon mes sources, la période de Noël l'année dernière, il y a eu 350 000 ventes de ce type de boîtier. Dans certains cas, ils vous sont offerts en cadeau bonus lorsque vous achetez la marchandise illégale. On est face à des gens très organisés.
Lucas. Et après, Bruno.
Alors, moi, je ne suis pas très bon intervenant là-dessus parce que d'abord, un, j'habite en Angleterre, donc je n'ai pas de télé en France. Deux.
Donc, tu as un IPTV.
Non, j'ai Amazon, Netflix, YouTube Premium. Ouais. Et je regarde Tech & Co sur. Ouais, j'ai ce luxe. Ouais.
Oui, ce qui est un des arguments finalement utilisé par.
Pour être tout à fait honnête, ma plus grande consommation, c'est YouTube Premium maintenant, de plus en plus. Enfin, YouTube a pris une place. Parce que je regarde beaucoup de choses, beaucoup de maths et de trucs, de modèles sur les IA et qu'il y a beaucoup de contenu. Mais donc finalement, je ne paye pas la redevance. Là, il y a des gens qui viennent frapper à ma porte une fois par an en me disant mais je leur dis, mais il n'y a pas d'antenne, venez voir. Et puis c'est terminé. Mais donc, je ne suis pas du tout concerné.
Bruno, qu'est-ce que tu penses à DC
Bruno, est-ce que tu as un IPTV?
J'en ai déjà eu, mais là, je n'en ai plus. Et puis, parce que je voulais te laisser.
Dès qu'on parle de ça, allô, tonton, pourquoi tu tousses?
On est en train de parler et Bruno, on t'entend beaucoup moins bien. Alors, on fait un petit essai à nouveau, allons-y. Vas-y, Bruno.
Ouais.
On va essayer de te retrouver sur une bonne liaison, Bruno, parce qu'on entend plus ce que tu dis. Mais du coup, le seul moyen, c'est justement mettre des moyens pour stopper tout ça. Mais comme le dit Lucas,
la question elle est complexe. Le point de départ, c'est la fragmentation des offres de télévision premium ou des offres de contenu premium qui font que pour regarder le contenu qu'on a envie de regarder ou pour suivre l'ensemble des clubs, je reste dans le foot, qu'on a envie de suivre, il faut parfois s'abonner à plusieurs services.
Mais ça veut quand même dire, si on a 8 millions de boîtiers comme ça, ça veut dire, parce que les menaces, elles sont fortes, hein, souvent, quand on dit attention, si vous utilisez ce type de boîtier, c'est une amende, etc. Ça veut dire quand tu as 8 millions de personnes, tu dis, oh,
too big to fail. À un moment, si quand on a 8 millions, si je tombe, tout le monde tombe avec moi. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a un effet comme ça aussi.
Ah oui, et puis il y a une question de crédibilité. Je ne sais plus exactement combien d'amendes ont été mises depuis, parce que le piratage de contenu, ça existe bien.
Oui, bien sûr.
Depuis qu'Adopi a été installé,
t'as dû connaître ça du temps.
Combien a coûté Adopi aux contribuables et quel est le montant cumulé des amendes qui ont été mises au pirat? Je ne crois pas qu'il y en ait eu beaucoup.
Non, il y a eu des avertissements.
Et je peux comprendre que ne pas taper le consommateur. La première chose, à mon avis, c'est de la pédagogie, c'est de leur faire comprendre que ce qu'ils font n'est pas légal. Est-ce que vous accepteriez que 20% des gens fraudent dans le métro? Est-ce que vous accepteriez que 20% des gens fraudent le fisc? Je ne crois pas. La deuxième, c'est de leur dire que ça les met en danger parce qu'encore une fois, leur numéro de téléphone se retrouve sur le dark web. Et puis la troisième, c'est effectivement de regarder, de s'inspirer de ce qu'ont fait pragmatiquement les Anglais, les Espagnols, les Italiens. Et de regarder comment est-ce qu'on se mobilise pour endiguer le phénomène.
Bon, en tout cas, voilà, le débat est lancé. On avait ce boîtier ce soir. Merci de nous avoir donné cette exclusivité dans Tech & Co de dire, voilà, 8 millions de boîtiers en circulation, bientôt 9. Hein, c'est quand même un chiffre assez conséquent. Je voulais qu'on passe sur un autre sujet, c'est la fuite des cerveaux. Alors, israélien qui inquiète Israël. Et on fera un pas de côté parce qu'on dira aussi en franc, la French Tech aussi s'inquiète. Alors, en Israël, c'est une des conséquences économiques de la guerre contre le Hamas. Les talents de la tech sont de plus en plus nombreux à quitter le territoire pour fuir le conflit. En tout cas, c'est ce que observent les autorités. Et l'État annonce un choc d'attractivité fiscale. On va écouter ce qu'en dit Erwan Morris, journaliste à la rédaction de BFM Business, et on revient juste après avec nos débriefeurs.
Le secteur technologique est pour Israël un atout économique majeur. 17% de son PIB et plus de la moitié de ses exportations. Seulement voilà, depuis le début de la guerre en 2023, ingénieurs et développeurs sont de plus en plus nombreux à faire leur bagage. Et le phénomène est loin d'être anecdotique. Les autorités ont enregistré sur les 9 premiers mois de la guerre moitié plus de départs qu'en temps de paix. On dénombre à ce jour 8300 sorties depuis 2023, soit 2% de la main-d'œuvre du secteur. Interrogé par le Financial Times, un patron d'une start-up tech s'inquiète même de voir dans son entourage investisseurs et chefs d'entreprise préférer se domicilier aux États-Unis et détenir une filiale en Israël plutôt que l'inverse. Dans l'espoir d'endiguer le phénomène, l'État prend donc plusieurs mesures fiscales. Les employés israéliens de retour d'une expatriation sont désormais exonérés d'impôts sur les revenus perçus et accumulés hors d'Israël. Les fonds d'investissement vont bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse. Quant aux organismes étrangers, ils seront eux exonérés de l'impôt sur les plus-values réalisées sur leurs investissements dans le secteur de la tech.
Lucas, je m'adresse à toi, tu travailles beaucoup entre Londres, enfin au niveau international, mais tu es physiquement souvent entre Londres et Paris. Oui, tu le vois ça
les US. Alors, égoïstement, nous, je travaille pas avec Israël du tout, mais...
Mais est-ce que tu vois un peu plus israélien?
Égoïstement, non plus Trump nous a rendu un très grand service. Je parlais avec un ingénieur à nous la semaine dernière. Et il m'a dit, bah, moi, je considérais aller aux États-Unis, indien de Singapour, avec un très haut niveau de formation, qui travaille pour nous maintenant. Et il m'a dit, moi, j'hésitais à aller aux États-Unis, puis quand j'ai vu que c'était Trump et quand j'ai vu l'histoire des visas, j'ai dit, bon, bah, on va essayer la France. Et il est très qualifié en ingénierie, il a fait un master dans une très grande école de commerce française. Tu sais, ces ingénieurs, ils veulent toujours faire une petite année en école de commerce parce qu'ils ont un complexe. Finalement, je me dis, tiens, on a bénéficié de la fin des H1B US. Je ne le savais pas. Enfin, lui, il m'a dit clairement, j'ai vu ça, j'ai vu que ça allait être compliqué, les histoires des visas. Parce qu'en plus, H1B US, c'est, si tu te fais rejeter chaque année, c'est 100 000 par an, quoi.
Ouais.
Donc, les boîtes, l'impression inverse. Et ça peut faire un appel d'air aux États-Unis parce que ce que disait cette personne-là, c'est qu'il y a des doubles nationalités israélo-américaines et que du coup, s'ils n'ont pas besoin de visa, les travailleurs de la tech israéliens n'ont pas besoin de visa H1B aux États-Unis et que les entreprises américaines ne peuvent pas embaucher des Indiens, des Chinois, etc. Bah ça, ils peuvent aller remplir ces postes-là bien payés. Donc il y a peut-être aussi un effet de vase communicant là.
Philippe, je connais un peu Israël et la tech israélienne pour y être allé, notamment dans le cadre du festival DLD à Tel Aviv où j'étais intervenu. Le modèle israélien jusqu'ici, c'était une concentration d'intelligence, notamment dans un domaine que je connais un peu, qui est celui de la cyber.
Cyber, oui.
Avec, on a toujours un coup d'avance.
Ils avaient un centre qui ressemblait à notre campus cyber là.
Beersheba.
Oui, c'est ça.
Dans lequel, on réussit très très vite. On se vend à une boîte américaine. Et on reste pas très longtemps parce qu'on a déjà parti sur la suite. Là, le sujet de départ de Brain Drain, moi, il y a un chiffre sur lequel je suis tombé en préparant l'émission, c'est qu'apparemment 45% des nouvelles startups s'y matriculent désormais à l'étranger. C'était 20% en 2022. Donc ça commence à faire effectivement beaucoup. Deuxième remarque, on voit que l'attractivité et la fiscalité vont de pair. Je ne vous laisse pas imaginer comment est-ce qu'on pourrait transposer ça en France. On fait des efforts d'attractivité absolument démentiels et qui sont pour l'instant couronnés de succès. Ne les démolissons pas avec une fiscalité totalement délirante.
On commence à voir, la French Tech s'inquiète. On commence à voir des Français qui partent vivre à Barcelone, certains en Allemagne.
Elle a raison. Bon, il y a toujours... Le paradoxe, c'est qu'il y a eu cet effet record cette année d'exit avec le rachat de Wiz par Google pour 32 milliards de dollars. Mais attention, une licorne qui sort de l'enclos, ça ne remplace pas un vivier. Et donc, c'est ça, à mon avis, qui les préoccupe. Mais au bout du bout, je pense que fondamentalement, ce que vit Israël, et c'est ce que va vivre aussi, vont vivre un certain nombre d'autres pays, dont la France, c'est simplement le fait qu'un entrepreneur, il a besoin de se projeter. Pour se projeter, il faut qu'il le fasse dans un cadre de référence qui soit stable. Un investisseur, il a besoin de se projeter. Pour se projeter, il a besoin que tout ce qui est au dénominateur ne change pas en permanence, en tout cas pas sur l'horizon de temps qu'est le temps de son fonds qui est de 10 à 12 ans. Donc plus le cadre politique est stable et dans le cas particulier d'Israël, et je pense à eux encore aujourd'hui, plus la paix et plus le calme, enfin plus la stabilité politique peut revenir.
Qui a un cadre stable aujourd'hui ?
Pardon ?
Personne n'a de cadre stable. Paradoxalement, l'Europe, c'est plutôt le cadre le plus stable. Enfin, les États-Unis, c'est un changement par jour.
Oui, oui, non, mais même l'Angleterre, hein, le UK aussi, il y a pas mal de changements aussi.
Oui, non, mais là, ce que je voulais dire, c'est que dans le cas très particulier d'Israël, là, on est dans une instabilité qui est profonde, qui est même de l'ordre de la sécurité. C'est-à-dire que même la sécurité n'est plus, assurée partout.
Là, il en va parfois de la vie des gens,
absolument.
De quitter le pays.
Ouais. Absolument. Et donc, je pense que c'est de ça qu'ils s'inquiètent. Il y a un certain nombre d'Israéliens, Israël étant tout petit, il y a un certain nombre d'Israéliens qui vivent à 5 kilomètres de la frontière et dont ils ne savent absolument pas ce qui peut leur tomber dessus. Donc je pense encore une fois que c'est on va se souvenir la paix, la stabilité, la bonne gestion, c'est le cadre dans lequel la prospérité peut se développer.
Dernier mot, c'est Huawei. Je voulais qu'on en parle. Alors, vous avez peut-être vu ça dans les actualités générales. C'est un complexe flambant neuf en Alsace. Hein, c'était l'usine du chinois Huawei qui devait être mise en service à la fin de l'année. 300 millions investis. Ça devait sortir des équipements 5G, des équipements pour entreprise. Et puis, c'est les dernières nouvelles de l'Alsace qui nous disent les locaux seraient en vente depuis 3 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Alors derrière, il y a des histoires de malversation vers des politiques pour installer ça en Europe. Il y a des histoires. On n'était pas loin, évidemment, du Parlement européen. Il y a des structures de l'armée qui n'étaient pas loin. Ils ont dit, oui, mais on va se faire espionner. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais ça dit quand même quelque chose. Bon, on parlait de cette instabilité. On est en plein dedans, là, Lucas.
Oui, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants.
Il y a beaucoup de...
Mais il y a eu beaucoup de... Enfin, Huawei, on a eu beaucoup de problèmes, aux US, avec les tours relais dans lesquelles il y avait des chips dont ils étaient accusés de faire de l'espionnage.
Xi Jinping a offert un téléphone au président sud-coréen en lui disant « Et celui-là, il n'y a pas de backdoor. »
Il n'y a pas de backdoor, exactement. Et puis après, les Chinois, ils se posent des questions, enfin, ils sont d'investissement à l'étranger parce qu'ils sont en train d'armer leur économie pour les tarifs. Donc, il y a un certain nombre d'investissements, tout ça, c'est très dirigé, sur lesquels ils sont à all-in sur les voitures. Je ne suis pas sûr qu'ils veulent être all-in sur tout et qu'ils puissent tout financer en même temps. Donc, il y a un certain nombre de projets. Ils ont beaucoup investi à l'étranger, pour acquérir de la matière première, etc. Je pense que là, ils sont un peu en train de se regrouper pour prévoir les tarifs.
Oui, et ce n'est pas 300 millions qui les freinent déjà d'investissement. Philippe, un dernier mot sur ce sujet ?
Alors, moi, j'ai une question qui est, si jamais le site est revendu, quel repreneur pour ce site ?
Est-ce que Nokia et Ericsson vont se porter
Peut-être qu'avec le milliard que Nvidia a mis dans Nokia... pourra financer quelque chose. Enfin voilà, il y a cette question-là. Et puis on voit bien que là on est à la croisée, on est dans le paradoxe, un paradoxe de plus, qui est que d'un côté on veut réindustrialiser, on veut attirer des outils de production, y compris étrangers, sur le sol français. Et de l'autre, la réglementation et la géopolitique font que on n'achète pas. C'est comme si on dit voilà, viens produire chez moi, mais je t'achèterai rien. Oui. Parce que Huawei est quand même encore aujourd'hui.
Mais ça, on le savait presque en 2019 quand ils sont.
Mais pour le coup, ça n'a pas l'air d'être un problème de réglementation ou de
non, non, mais je parlais de politique, c'est-à-dire que le Huawei a du mal. Le made by Huawei in Europe n'a pas nécessairement beaucoup de clients devant lui en Europe. C'est mon seul point.
Voilà, on suivra ce sujet-là parce que c'est assez intéressant. Et effectivement, qui pourrait être le repreneur d'une telle usine flambant neuve ? Il paraît que les locaux sont absolument superbes. Allez, merci messieurs, merci à tous les trois. Lucas Perraudin, fondateur de AI Partners, Philippe Debos, fondateur de Fideos. Et puis merci à Bruno Guglielminetti. On a eu des petits soucis de connexion. Mon carnet de l'actualité numérique, si vous voulez retrouver tout ce que nous raconte Bruno chaque jour.